France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. En 1907, Alban Berg confiait dans une lettre que « nous avons fini par admettre que la sensualité n'est ni une faiblesse, ni une abdication de la volonté, mais au contraire, une force immense qui nous habite ». Cette force immense habite en effet toute la musique de Berg et semble sa raison d'être. Ainsi, la musique reflèterait-elle la personnalité et la pensée du compositeur? C'est ainsi que les présente Elisabeth Brisson, mon invitée, qui nous propose un portrait de Berg à travers ses œuvres. Alban Berg, au miroir de ses œuvres, d'Elisabeth Brisson, chez Edam Musicae. Jesse Norman, Anne Schein au piano, c'était Geliebte Schön sur un poème de Heinrich Heine d'Alban Berg, un poème et un lied surtout de jeunesse d'Alban Berg. Bonjour Elisabeth Brisson.
Bonjour Philippe Venturini.
Je l'ai dit, donc vous proposez une sorte de portrait d'Alban Berg à travers sa musique. C'est un parcours chronologique donc des œuvres d'Alban Berg. Il faut rappeler peut-être déjà que son œuvre est assez limitée, c'est une quinzaine d'opus. Une quinzaine de titres, si on ne tient compte que des grands titres, bien sûr.
Oui, 13 même, on peut
voilà,
dire.
Hein.
Évidemment, il a écrit beaucoup comme ce genre de lead qu'on vient d'entendre. Il a écrit beaucoup de leaders. Alors, les chiffres, on sait.
En tout cas, c'est 80-90,
oui.
Avant de commencer, ou encore quand il commençait
oui,
à prendre des cours
avec
Schönberg.
Avec Schönberg, oui. Ouais. Avant, oui, et après.
Vous le présentez comme autodidacte, né dans une famille plutôt aisée, dans laquelle la musique avait beaucoup d'importance. Et c'est à l'âge de 19 ans, donc en 1904, qu'il prend des cours avec Schönberg, c'est ça?
Oui, il a aimé la musique, il pensait musique, il prenait les poèmes de ses copains ou de grands littérateurs, de Heine par exemple. Et puis pour lui, c'était la mise en musique. Alors évidemment, avec les références qu'il avait, qui étaient essentiellement Mahler, qu'il adorait, Wagner également, Beethoven, Bruckner aussi, qui était un ami de la famille. Et ses frères et sœurs savaient qu'il adorait la musique, ils sont allés, ils ont vu une petite annonce dans le journal que Schönberg donnait des cours particuliers et ils sont allés montrer, Charlie a été montré quelques œuvres de son frère et Schönberg a accepté ce jeune élève.
Et à l'écoute du lied qu'on vient d'entendre, qui est une œuvre de jeunesse, on a vraiment l'impression d'avoir que c'est né de la plume d'un compositeur romantique ou post-romantique. Est-ce que vous considérez, j'ai plutôt la, je vais une idée de la réponse, que Berg est un romantique, ou en tout cas, il prolonge le romantisme?
C'est ce qu'il dit lui-même, hein. Il dit que c'est un romantique incorrigible. Ouais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui était dans la veine de Beethoven, c'est-à-dire qu'il a toujours été en recherche d'aller plus loin. Donc il a eu un héritage d'écriture, mais il a essayé de tourner les sons, de les ouais. organiser, de les texturer, on va dire, d'une façon qui était de son époque, de lui, et non pas de recopie.
Ouais, avec toujours derrière quand même ce feu de la passion qui a l'air de le guider toute sa vie.
Oui, c'est extraordinaire, ce feu de la passion très jeune aussi, et ensuite qui trouvait dans la littérature quelques, en particulier dans Balzac, Séraphita, qui est un roman absolument étonnant et qui parle d'amour pur, d'amour qui accède à la spiritualité. Et Schoenberg aussi voulait faire un opéra sur Séraphita. Donc c'était quelque chose qui circulait dans leur milieu. Il y avait également Ibsen, une maison de poupées qui a été très très importante pour la passion et ce que ça peut dire, ce que veut dire les relations interhumaines et entre un homme et une femme et la liberté d'une femme.
Mmh. Et la littérature, la poésie notamment, a beaucoup d'importance dans la formation d'Alban Berg.
La poésie, oui. Alors, quand on voit les poètes qu'il a mis en musique, c'est très hétéroclite. Hein. Mmh. Et surtout, il y avait les poètes contemporains. Ses camarades de classe qui écrivaient, ils mettaient en musique. Et ensuite, il a été très très frappé quand il a découvert Baudelaire vers 1910. Il a été, alors là, ça a été vraiment... c'est lui qui exprimait ce qu'il ressentait. Sentait de l'art, de la vie, de la sensualité, de ces forces profondes qui vous tiennent.
Seele, wie bist du schöner, un des Altenberg-Lieder d'Albanberg, Margaret Price, soprano, l'orchestre symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abbado. Elisabeth Brisson, quand on écoute ce lead de Berg, on perçoit tout de suite la sensualité à laquelle vous faisiez allusion, la sensibilité au timbre, une volupté musicale sonore absolument incroyable.
Oui, ce qu'il appelait le clang, c'est-à-dire c'était ça qui était...
La façon dont ça sonne, ouais.
La sonorité de, et comment il pouvait créer ces sons inouïs. Qui soit, on a envie de toujours dire l'expression de ce qu'il y a de plus profond dans un être, mais c'est ce qui constitue en fait, c'est plutôt la façon de mettre en évidence, de mettre en ouïe, en autre, ce qu'il y a à l'intérieur de la sensibilité de quelqu'un.
Ouais. Et là, c'est leader de Altenberg, là à nouveau, il met en musique un de ses contemporains.
Oui, c'est un de ses contemporains, Altenberg, c'était un poète un peu excentrique, et où il y avait là, on parlait de sensualité, aussi des relations d'amour, parce que Altenberg était amoureux de la femme de la femme de Berg,
mais
Hélène Berg, et il était aussi amoureux de la sœur de Berg. Donc il y a tout un climat d'amour, de sensualité de ce début du siècle. Et Altenberg, donc, c'était une joute avec Berg, dans la tête d'Alban. Et c'est lui qui a réussi à avoir la belle Hélène. Et alors là, c'est Altenberg Lieder, il a pris les textes de cartes postales de Altenberg, c'était ces poèmes qui étaient de la vie courante, de la vie quotidienne, mais qui véhiculaient les éléments les plus importants de ce qui constitue un être et ses relations avec les autres. Mmh.
Donc c'est-à-dire qu'il partait d'un matériau littéraire extrêmement concis, extrêmement réduit, si c'était des textes de cartes postales.
Des textes, oui, concis et qui circulent. Je veux dire que c'était pas que de lui, c'était pas la grande littérature de l'intimité d'un Heine, ouais. Mais c'était quelque chose qui était un petit peu à la limite du trivial et qu'il a sublimé parce que ça raconte, ça met en œuvre ce qui meut l'individu.
Elisabeth Brisson, il y a dans la musique de Berg, on a parlé de sensualité, de volupté sonore. Est-ce que des trois compositeurs de cette deuxième école de Vienne, Schönberg et puis ses deux élèves, Berg et Webern, est-ce qu'on pourrait dire que justement Berg est le plus sensuel et c'est peut-être la raison pour laquelle des trois, c'est peut-être le plus joué encore aujourd'hui?
Moi, oui, je pense que c'est parce que c'était conscient chez lui, c'était vraiment, mais c'est pas que la sensualité d'ailleurs, parce qu'il le dit très très souvent à sa femme. Il y a beaucoup de lettres parce qu'il s'est souvent, elle était en cure, donc il s'écrivait. Et alors, il y a beaucoup de lettres où il dit qu'il veut nouer vraiment la sensualité, le corps, l'âme.
L'intellect.
Et la pensée. Pour sa musique, c'est vraiment le nœud de ce qui fait la condition humaine. Et surtout pas éliminer ce qui est cette sensualité.
Et on entend aussi derrière les notes, enfin me semble-t-il, deux choses que vous mettez en avant, Elisabeth Brisson, qui sont à la fois la douleur, la blessure. D'où est-ce que ça vient?
Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est quand il y a dans les lettres de Berg, il y a toujours un jeu de mots entre Wunder et Wund. Mmh. Donc, en allemand, il y a juste un R, de l'air, justement, qui différencie les deux. Et Wunder, c'est l'émerveillement, quelque chose qui vous sort de vous. Et Wunder, c'est la blessure. Alors, cette blessure, c'est une blessure existentielle, comme tout un chacun en possède, qui, elle, a été activée par la vie réel de Berg, la mort de son père quand il avait 15 ans, et juste au moment où son père est mort, il a eu une relation avec une servante de la maison qui s'appelait Marie, comme par hasard, et qui avec laquelle il a eu un enfant. Et il a été privé de paternité parce que ça a été le scandale dans la famille. On a camouflé ça. Il n'a jamais pu en parler. Et pourtant, il y a des lettres. Il a écrit à Marie. Il a voulu revoir sa fille, etc. Donc c'est quelque chose qui a été une souffrance pour lui qu'on le prive de du fruit de la vie. Et ensuite, il n'a pas eu d'enfant. Et ça a été vraiment... Alors, moi, je pense que cette réalité de sa vie ne fait qu'aviver une difficulté à être dans le monde, comme on a tout un chacun. Mais ça s'est concrétisé. Et alors, ce qui est... je disais qu'entre Wunder et Wunder, il y avait le R. Et bien, il se trouve qu'il souffrait de crise d'asthme. Et juste en relation très très directe avec la mort de son père.
L'Allegro Misterioso, extrait de la suite lyrique d'Alban Berg, interprété par le Quator Prajak. Elisabeth Brisson, il y a derrière cette suite lyrique pour Quator à cordes toute une histoire, toute une trame, toute une relation amoureuse et qui est codée et qu'il faut savoir décoder, lire derrière les notes en fait.
Oui, c'est très complexe parce qu'il y a eu beaucoup de littérature autour. Ça permettait enfin de trouver que l'œuvre était une autobiographie. Et moi, je pense que c'est tout à fait l'inverse, c'est qu'il a eu cette vie pour faire cette œuvre. Et cette œuvre, c'est un quatuor, et un quatuor, c'est Beethoven. Et il fallait beaucoup de souffrance aussi pour pouvoir faire quelque chose qui soit en relation avec sa conception de la vie et sa conception de la création musicale. Alors il a utilisé pour faire ce quatuor, il a utilisé ce qu'il avait créé comme vécu, c'est-à-dire la rencontre avec une femme qui était impossible à Prague, justement comme Beethoven avec son immortel bien-aimé. Et on a l'impression qu'il y a une redite là, il se met dans un personnage.
C'est-à-dire que Berg était marié et il tombe amoureux d'une femme mariée.
Oui, Berg était marié lui avec Hélène. Voilà. Bon, c'est encore toute une histoire et Hélène n'était pas toujours avec lui. Mais là, il tombe amoureux donc de Anna et à partir de cette relation, ils décident qu'ils peuvent pas se voir parce qu'ils sont tous les deux mariés, ils veulent pas rompre rompre leur équilibre social, on va dire, eh bien, il a l'idée que ce serait bien de raconter leur histoire dans un quatuor. Alors, on a la chance d'avoir une série de lettres qu'il a écrites à Anna, donc, où il raconte. Donc, c'est, lui, il est content de montrer comment la genèse de son œuvre et comment cette genèse, elle est liée de l'émotion qu'il a ressentie à côté d'elle, de la, pas de la rupture, mais de l'éloignement avec elle. Alors, il va prendre comme matière première qui décryptait les lettres de leur prénom et de leur nom de famille. Parce que en Allemagne, aussi bien qu'en Angleterre, le nom des notes, tout le monde le sait maintenant, je pense, c'est avec les lettres de l'alphabet. Donc, depuis Bach, en passant par Schumann, par Beethoven, Liszt, etc. Eh bien, c'était une matière musicale que de s'amuser à prendre, à noter, à mettre en musique les notes. Il a le bonheur, donc, de créer une œuvre musicale à partir de ce qui constitue sa matière première à lui, son être à lui, parce que c'est son prénom, son nom de famille, le prénom de Anna et le nom de famille de Anna.
C'est donc AB et HF, c'est ça?
Oui, c'est AB et HF, alors il les a combinés, parce que ce qu'il aimait, c'est cette combinatoire, et il crée une texture où ils sont tous les deux là.
Et est-ce que j'imagine que ce récit a été caché pendant toute la vie de Berg, ou on l'a découvert après? Comment ça s'est passé?
Alors ça a été caché pour tout le monde, sauf pour Anna. Il lui a fait parvenir une partition éditée où il a été expliqué de quoi il s'agissait. Mais parce qu'en fait, moi je crois que Anna, elle était pas musicienne, elle était une mondaine, et elle était pas du tout dans la spiritualité musicale de Berg. Et il aurait bien aimé qu'elle comprenne de quoi il s'agissait. Je pense que ça, Hélène, on n'a pas grand-chose parce qu'elle a détruit beaucoup de lettres. Mais Hélène, elle avait fait du chant et elle était beaucoup plus musicienne. Elle était amie avec Alma Mahler aussi. Elle était beaucoup plus dans la musique, alors que Anna, elle était dans le monde de l'industrie, des hommes d'affaires. Et lui, désespérément, je crois qu'il a essayé de lui faire comprendre combien cette musique, c'était une façon pour elle, comme dans la Bien-aimée lointaine de Beethoven, de se rapprocher en permanence d'elle, parce qu'à chaque fois qu'elle l'entendrait, mais je crois que ça n'a pas marché, ça.
Thank you.
Margaret Price et l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abbado. C'était un extrait de la Loulou Suite d'Alban Berg. Elisabeth Brisson, donc un extrait de cette suite, hein, d'après des thèmes de Loulou, et non pas un extrait de l'opéra Loulou. Donc la dernière œuvre, hein, d'Alban Berg. Le troisième acte restera inachevé et ne sera complété qu'en 1976, si j'ai bonne mémoire, oui, par Friedrich Serra. Une création à l'Opéra de Paris, dirigée par Pierre Boulez en 79. Ce personnage de Loulou, est-ce qu'il avait tout pour attirer, justement, pour intéresser Alban Berg, Elisabeth Brisson?
Oui, il a beaucoup hésité, enfin longtemps hésité. Il voulait faire un autre opéra après Wozzeck, qui avait eu beaucoup de succès, qu'il avait rendu riche grâce à Wozzeck. Il avait pu s'acheter une voiture, passer son permis, acheter une voiture, etc. Ça n'a pas duré longtemps parce que dès qu'il y a eu les nazis, sa musique était considéré comme dégénéré, il n'a plus de revenus, ce qui a dû contribuer à sa mort précoce. D'ailleurs, en 1935, il avait 50 ans et il n'avait pas donc terminé Loulou. Et Loulou, il y a travaillé beaucoup. Alors, il a beaucoup cherché, enfin, il a été impressionné par la pièce de Wedekind dès qu'il l'a vue, parce qu'il s'agissait de cette femme, un peu dans le genre de Nora de Ibsen, et de ce qu'il voyait aussi, enfin, de, peut-être de sa vie avec Hélène, c'est-à-dire que pour lui, ou c'est plutôt avec Marie, celle qu'il avait aimée, dont il a eu un enfant, et avec sa sœur aussi, qui était pas tout à fait excentrique, mais enfin qui avait des positions très modernes par rapport à ce qu'est une femme. Et il a été vraiment. Il y a une lettre où il discute de ce que Nora aurait fait, ce que Nora va faire à la fin de la pièce de Ibsen. Donc c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup, que cette indépendance de la femme et la façon dont les hommes considérait les femmes, il voulait la sortir de l'objet. Et Loulou, c'est vraiment un hymne à cette lutte de la femme pour ne plus être un objet. Et être dans le désir, mais le désir, c'est aussi la mort, comme la fin le montre. Et il a donc travaillé beaucoup sur cette Loulou, et à mon avis, on a mal compris ce qu'il a voulu faire, hein, parce que cette Loulou de Berg, c'est pas du tout cette femme fatale qui fait tomber tous les hommes, c'est une femme qui essaye de faire reconnaître qu'elle est une femme, qu'elle est un personnage, qu'elle est une personne et qu'elle n'a pas à être nommée par tous ceux qui la voient, ils lui donnent un prénom à eux et ils ne reconnaissent pas, sauf son père, on sait, très ambigu aussi parce qu'il y a peut-être de l'inceste derrière, mais il y a aussi du Goethe et du Mignon, etc., parce que tout est une construction littéraire. Il est très très imbibé de toute une culture, hein, Berg, et donc cette ambiguïté aussi de départ, mais elle n'a pas d'identité. Elle n'est que une espèce de facette de celui qui veut bien jeter un œil sur elle. Et elle ne les séduit pas. C'est eux qui sont qui construisent quelque chose avec à partir d'elle, mais dans laquelle elle n'est pas du tout. Et Berg a voulu lui rendre hommage, à mon avis.
Très bien, merci beaucoup Elisabeth Brisson. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître chez Edam Musicae, Alban Berg au miroir de ses œuvres. La semaine prochaine, je recevrai Elisabeth Werk et nous parlerons de Dvorak. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Delphine Baudet, attachée de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.